Chapitre 16e. Dans la matinée du même jour où l'entretien précédent avait eu lieu entre l'abbé Ledoux et M. de Macreuse, Mme la duchesse de Santerre, ayant reçu une lettre très pressante, était sortie à 10 heures contre son habitude. De retour vers les 11h30, elle avait aussitôt fait demander son fils Gérald. Le valet de chambre du jeune homme avait répondu à la femme de chambre de Mme de Santerre que M. le duc n'avait pas couché à l'hôtel. Vers midi, un second et impatient message de la duchesse. Son fils n'était pas encore de retour. Enfin, à midi et demi, Gérald parut chez sa mère. Il s'apprêtait à l'embrasser avec une affectueuse gaieté, lorsque la duchesse le repoussa doucement et lui dit d'un ton de reproche « Voilà 3 fois que je vous fais demander, mon fils. Je rentre et me voici. Que me veux-tu, chère mère? Vous rentrez, Gérald? Vous rentrez à 7 heures? Quelle conduite? Comment, quelle conduite? Écoutez-moi, mon fils. » Il est des choses que je ne veux, que je ne dois pas savoir. Mais ne prenez pas pour de la tolérance ou pour de l'aveuglement la répugnance que j'éprouve à vous faire certaines observations. « Ma chère mère, » dit Gérald, d'une voix à la fois respectueuse et ferme, « tu m'as trouvé? Tu me trouveras toujours le plus respectueux, le plus tendre des fils. Je n'ai pas besoin d'ajouter que mon nom, qui est aussi le tien, sera partout et toujours honoré et honorable. Mais que veux-tu? J'ai 24 ans, je vis et je m'amuse en homme de 24 ans. Gérald, ce n'est pas d'aujourd'hui, vous le savez, que votre genre de vie m'afflige profondément. Et pour moi, et pour vous, c'est à peine si vous voyez le monde où votre nom et votre esprit vous assignent une place si distinguée, et vous fréquentez continuellement la plus mauvaise compagnie. En femme, c'est vrai. Et pour moi, sous ce rapport, la mauvaise compagnie est la bonne. Allons, ne te fâche pas. Je suis, tu le sais, restez toujours soldat pour la franchise du langage. J'avoue donc mon peu de faible pour les rosières. Mais j'ai le plus glorieux choix d'amis qui puisse rendre fier un galant homme. Tiens, j'en ai un entre autres, le plus cher de tous, un ancien soldat de mon régiment. Si tu le connaissais, celui-là, chère mère, tu aurais meilleure opinion de moi, ajouta Gérald en souriant, car tu sais qu'on juge aussi les hommes par leurs amitiés. Il n'y a au monde que vous, Gérald, pour les choisir vos amis intimes parmi les soldats, dit la duchesse en haussant les épaules. « Je le crois, par Dieu bien, chère mère. Il n'est pas donné à tout le monde d'aller choisir ses amis sur le champ de bataille. D'ailleurs, je ne vous parle pas de vos relations d'homme, mon fils. Je vous reproche de vous commettre avec d'indignes créatures. Elles sont si amusantes, mon fils. »« Pardon, bonne mère, » dit Gérald en embrassant la duchesse malgré elle. « Voyons, j'ai tort, oui, là j'ai tort, d'avoir avec toi cette franchise de caserne, mais pourtant... » ajouta-t-il, souriant et hésitant. « Je ne voudrais certes pas te scandaliser encore, et cependant... Que veux-tu que je te dise, chère mère? On a 24 ans, c'est pour s'en servir. Je n'ai pas connu les vestales, soit. M'aimerais-tu mieux me voir porter le trouble et la désolation dans toutes sortes d'honnêtes ménages ?» ajouta Gérald d'un ton comique-tragique. « Et puis vois-tu, j'ai essayé, j'ai même réussi, et bien franchement, par vertu, j'aime mieux les lorettes. D'abord, ça n'outrage pas la sainteté du mariage, et puis, c'est plus drôle. Eh, mon Dieu, monsieur, je n'ai pas à me prononcer sur le choix de vos maîtresses, reprit impatiemment la duchesse. Mais il est de mon devoir de blâmer sévèrement l'inconcevable légèreté de votre conduite. Vous ne savez pas le tort que cela vous fait. Quel tort? Croyez, par exemple, que s'il s'agissait d'un mariage? Comment, d'un mariage? S'écria Gérald, mais je ne me marie pas, moi, diable. Vous me ferez, je l'espère, la grâce de m'écouter. Je t'écoute. Vous connaissez Madame de Mirecourt? Oui, heureusement, elle est mariée, celle-là. Et tu ne me la proposeras pas? C'est bien la plus abominable intrigante. C'est possible. Mais elle est intimement liée avec Madame de la Rochegue, qui est aussi de mes amies. Depuis peu, donc, car je t'en ai souvent entendu dire à Malafreux, que c'était la bassesse même, que c'était... Il ne s'agit pas de tout cela, dit la duchesse en interrompant son fils. Madame de la Rochegue a pour pupille Mademoiselle de Beauménil, la plus riche héritière de France, qui est en Italie, qui est à Paris. Elle est de retour d'hier soir, et ce matin à 10 heures, j'ai eu, chez Madame de Mirecourt, une longue et dernière conférence avec Madame de la Rochegue, car depuis près d'un mois, je m'occupais de cette affaire dont je n'ai pas voulu vous dire un mot, sachant votre légèreté habituelle. Heureusement, tout a été jusqu'ici tenu si secret entre Madame de la Rochegue, Madame de Mirecourt et moi, que nous avons le meilleur espoir. De l'espoir, pourquoi ? Dit Gérald abasourdi. Mais pour la réussite de votre mariage avec mademoiselle de Beauménil. Comment, mon mariage ? S'écria Gérald en bondissant sur sa chaise. Oui, votre mariage, avec la plus riche héritière de France, reprit madame de Senneterre, puis elle ajouta sans cacher son inquiétude. Hélas, toutes les chances seraient pour nous sans votre malheureuse conduite, car les prétendants, les rivaux, vont surgir de tous côtés. Ce sera une concurrence acharnée, sans merci ni pitié, et Dieu sait combien, sans vous calomnier, on pourra vous desservir. Ah, si avec votre nom, votre esprit, votre figure, vous étiez cité comme un modèle de conduite et de régularité, comme cet excellent monsieur de Macreuse, par exemple. Ah, ça, mère, c'est sérieusement que vous pensez à ce mariage ? Dit enfin Gérald, qui avait écouté sa mère avec une stupeur toujours croissante. Si c'est sérieusement que j'y pense, vous me le demandez ? Ma chère mère, je vous sais un gré infini de vos bonnes intentions, mais je vous le répète, je ne veux pas me marier. Madame de Cerner crut avoir mal entendu, se renversa brusquement dans son fauteuil, joignit les mains et s'écria d'une voix altérée. « Comment ? Vous dites que ?»« Je dis, ma chère mère, que je ne veux pas me marier. Mon Dieu, c'est de la démence !» s'écria madame de Senneterre. « Il refuse la plus riche héritière de France. » « Écoute, ma mère, » reprit Gérald avec une gravité douce et tendre, « je suis honnête homme et comme tel, je t'avoue que j'aime le plaisir à la folie. Je l'aime autant et plus qu'à 20 ans. Je serai donc un détestable mari, même pour la plus riche héritière de France. » « Une fortune inouïe, » répéta madame de Senneterre, comme évitée par le refus de son fils, « plus de 3 millions de rentes en bien fond. J'aime mieux le plaisir et la liberté. » « Ce que vous dites là est stupide, est indigne, » s'écria madame de Certaire hors d'elle-même. « Mais vous êtes donc d'un insensé. »« Que veux-tu, chère mère ?» répondit Gérald en souriant. « J'aime tout naïvement les gais soupers, les joyeuses maîtresses et l'indépendance de la vie de garçon. Vive Dieu, j'ai encore devant moi 6 belles années fleuries, que je ne donnerai pas pour tous les millions de la terre, et de plus, » ajouta Gérald d'un ton noble et ferme. Jamais je n'aurai l'ignoble courage de rendre aussi malheureuse que ridicule une pauvre fille que j'aurais prise pour son argent. Et d'ailleurs, ma mère, tu sais bien que je n'ai pas voulu acheter un homme pour l'envoyer se faire tuer à ma place. Tu trouveras donc, tout simple, que je ne me vante pas aux millions d'une femme. Mais mon fils, ma chère mère, c'est comme ça. Ton monsieur de Macreuse, et par intérêt pour lui, ne me le propose plus pour modèle, car je finirai par lui casser une infinité de cannes sur le dos. Ton monsieur de Macreuse, qui est très dévot, n'aurait pas les mêmes scrupules que moi, qui suis un vrai païen, c'est probable. Mais tel que je suis, tel tu me garderas, et tel je t'aimerai plus tendrement que jamais, chère mère, ajouta Gérald, en baisant avec respect la main de la duchesse qui le repoussa. Il est des incidents singuliers. À peine Gérald venait-il de prononcer le nom du protégé de sa mère et de l'abbé Ledoux, que le valet de chambre de la duchesse entra après avoir frappé et lui dit « Monsieur de Macreuse désirerait parler à madame la duchesse, c'est pour une affaire très importante et très pressée. »« Vous avez donc dit que j'étais chez moi ?» demanda madame de Senneterre. Madame la duchesse, ne m'ayant pas donné d'ordre contraire, « C'est bien. Priez monsieur de Macreuse d'attendre un instant, » dit madame de Senneterre au valet qui sortit. S'adressant à son fils, elle lui dit, non plus avec sévérité mais avec une douloureuse émotion, votre inconcevable refus m'accable et m'afflige à un point que je ne saurais vous dire. Aussi, je vous en prie en grâce, Gérald, attendez-moi un instant, je reviens tout à l'heure. Ah, mon fils, mon ami, vous ne pouvez vous imaginer l'affreux chagrin que vous me faites. Tiens, ma mère, ne me parle pas ainsi, dit Gérald, touché de l'accent attristé de la duchesse. Ne sais-tu pas combien je t'aime ? Vous le dites, Gérald, j'ai besoin de le croire. Envoie donc promener cet animal de Macreuse, et causons. Je tiens à te convaincre que ma conduite est du moins honnête et loyale. Allons, tu me quittes ? Ajouta-t-il en voyant sa mère se diriger vers la porte. Monsieur de Macreuse m'attend, répondit la duchesse. Eh, par Dieu, je vais lui dire qu'il s'en aille. Ne faut-il pas se gêner avec lui ? Et comme monsieur de Senneterre, voulant donner cet ordre, s'approchait de la cheminée pour sonner, sa mère l'arrêta et lui dit « Gérald, un autre de mes chagrins et de voir avec quelle aversion, je ne veux pas dire avec quelle jalousie, trop significative, vous parlez d'un jeune homme de bien, dont la conduite exemplaire, dont la modestie, dont la piété, devrait servir de modèle à tous. Ah, plutôt ciel, que vous eussiez ces mœurs, ces vertus. Vous ne préféreriez pas les coupables égarements qui perdent votre jeunesse à un magnifique mariage qui assurerait votre bonheur et le mien. Ce disant, Madame de Senneterre alla rejoindre Monsieur de Macreuse et laissa son fils seul en lui faisant promettre qu'il attendrait son retour.